rapport numéro 2, il concerne le compte administratif. On dit que c'est moi qui suis le rapporteur, mais en réalité, je vais vite donner le ballon à l'adjoint aux finances, qui va vous faire une présentation détaillée du compte administratif. Je veux simplement rappeler que le compte administratif, c'est vraiment un document de référence, un document important. Voter un budget, c'est évidemment important, mais c'est du prévisionnel. Ça exprime une volonté de la part d'un conseil municipal qui dit, voilà, on va mettre le paquet sur telle ou telle priorité, etc. Et puis on inscrit des dépenses aussi justes que possible, mais qui restent des prévisions de dépenses ou de recettes. Le compte administratif, lui, c'est constater ce qui s'est réellement passé au cours de l'exercice budgétaire écoulé. Donc là, on examine vraiment ce qu'on a dépensé, ce qu'on a encaissé comme recette, etc., etc., ce qu'on a exécuté en termes d'investissement, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on avait prévu, pourquoi ne l'a-t-on pas fait, etc., etc., et puis quels sont les résultats comptables, je dirais, de notre gestion. Donc c'est vraiment un document important et qui constitue la référence. Après, quand on prend des ratios, des choses comme ça, c'est évidemment par rapport au compte administratif qu'il faut les voir. Ce rappel étant fait, Jean-Claude, tu as la parole.
Bien, je ne vais pas vous lire le rapport tel qu'il est. Par contre, tous les chiffres contenus vont être repris à un moment donné ou à un autre. Donc, je vous invite en préambule à ouvrir l'annexe numéro 2. L'annexe plutôt rapport numéro 2 qui s'appelle Balance 2016. Balance 2016. C'est un schéma. Hein, c'est... Ça y est. C'est bon. Bien. Bon, donc, ce document qui s'intitule Résultat d'exécution du CA 2016 rappelle la mécanique financière qui mène au résultat cumulé 2016 et dont les modalités d'affectation feront l'objet du rapport suivant. En section de fonctionnement, compte tenu du résultat dégagé en 2016 et du résultat 2015 reporté, on obtient fin 2016 un résultat cumulé de 3 963 189 euros. Ensuite, plus bas, en section d'investissement, compte tenu du résultat négatif dégagé en 2016 et du déficit 2015 reporté, on aboutit à un déficit de clôture cumulé de 1 066 998 euros qui doit être soldé. Ce déficit est plus élevé que celui constaté fin 2015, ce qui est logique compte tenu de l'important volume d'investissement réalisé en 2016. Au-dessous viennent les restes à réaliser en recettes et dépenses. Ces restes à réaliser font naître un besoin net de financement supplémentaire de 720 484 euros. On retrouvera ces restes à réaliser en section d'investissement au compte administratif 2016 et leur reprise au BP 2017, toujours en section d'investissement. Compte tenu du déficit de clôture à solder et des restes à réaliser nets, le besoin global de financement de la section d'investissement s'élève donc à 1 787 483 euros. Le schéma de bas de page qui suit donc montre que ce besoin de financement sera couvert par l'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement cumulé 2016 que l'on retrouvera en recette d'investissement au BP 2017. Le solde de ce résultat, soit 2 175 706 euros, sera reporté en recette de fonctionnement au budget 2017 et contribuera à sécuriser le financement de l'activité municipale au quotidien. Voilà pour ce préambule. On peut rentrer maintenant vraiment dans le compte administratif en ouvrant le document annexé au rapport numéro 2 et qui s'intitule « Récapitulatif par chapitre CA 2016 ». Récapitulatif par chapitre CA 2016. Donc là, vous avez les quatre tableaux hein, qui montrent, avec les chapitres qui vous sont détaillés. Tout le monde...
On est sur l'annexe.
2016. Récapitulatif par chapitre, CA 2016. Ça y est, tout le monde y est. Bien, alors donc, pour mémoire, le compte administratif retrace l'exécution du budget par l'ordonnateur, c'est-à-dire le maire, et constitue le pendant du compte de gestion tenu par le comptable public, comme on vient de le voir au rapport précédent. Alors, je rappelle que les comparaisons sont faites de CA à CA et que le budget 2016 a été adopté dans une présentation par chapitre dont les contenus détaillés vous ont été donnés dans les maquettes jointes à l'annexe. Alors, venons-en maintenant à la section de fonctionnement, en commençant par une vue d'ensemble des grandes masses significatives et en ciblant les opérations réelles qui seules ont un intérêt dans l'analyse, car elles participent à la création de l'épargne brute, ce qui n'est pas le cas des opérations d'ordre. On commencera par les grandes masses de dépenses, en constatant qu'entre 2015 et 2016, le sous-total dépenses réelles de fonctionnement a diminué de 1,51%. C'est un constat qui va dans le bon sens. Toutefois, pour mesurer plus précisément les conséquences de l'action municipale au quotidien, c'est le sous-total des dépenses de gestion courante regroupant les chapitres 011 à 65 qui doit être privilégié. Alors, si vous avez retrouvé ce sous-total, c'est très bien. Alors donc, on constate qu'entre 2015 et 2016, ce sous-total a diminué de 2,35%, ce qui est significatif pour une masse qui représente 98% des dépenses réelles. En 2016, les dépenses de gestion courante ont donc été maîtrisées. On peut faire la même chose maintenant à partir des recettes. Donc, il faut prendre le tableau suivant. Entre 2015 et 2016, le sous-total recettes réelles de fonctionnement a diminué de 3,33%. La baisse de la DGF et l'évolution atypique d'un chapitre sur lequel on reviendra expliquent en grande partie cette diminution. Mais, comme pour les dépenses, c'est le sous-total des recettes de gestion courante regroupant les chapitres 013 à 75 qui doit être retenu pour donner de la pertinence à l'analyse. On constate qu'entre 2015 et 2016, ce sous-total qui représente près de 99% des recettes réelles a diminué de 2,69%, ce qui est un taux voisin de celui de la baisse des dépenses de gestion courante qu'on a déjà constaté. Autrement dit, dans cette configuration, la menace d'effet de ciseau est repoussée dans le long terme. Voilà pour une vue d'ensemble, par grande masse, des dépenses et recettes. Maintenant, pour expliquer les variations de ces grandes masses, on va passer à l'examen de chaque chapitre en revenant sur le tableau des dépenses de fonctionnement. Donc, on revient sur les dépenses. Le premier chapitre est le chapitre 011, charges à caractère général. Lors du débat d'orientation budgétaire 2016, il avait été demandé aux services gestionnaires de maintenir le chapitre 011 à son niveau de 2015, voire de le diminuer. La baisse de 4,73% que l'on constate ici montre que cet objectif est nettement atteint, notamment grâce à la diminution des dépenses gérées directement par les services. Le chapitre 011 est un chapitre globalisé qui représente près de 27% des dépenses de gestion courante et qui, selon la terminologie comptable, regroupe trois catégories principales de charges. La première catégorie, pour un total de 550 000 euros, concerne les achats, tels que les fournitures diverses, les denrées pour la cantine, l'électricité, le carburant par exemple. Cette catégorie représente 39% du chapitre et elle baisse de 6,22%. Cette baisse s'explique principalement par les efforts réalisés par les services gestionnaires. La deuxième catégorie, pour un total de 563 000 euros, concerne les services extérieurs, à savoir les dépenses facturées pour l'exécution d'un service, comme le nettoiement, l'animation, l'entretien des bâtiments et de la voirie, par exemple. Elle représente près de 40% du chapitre et baisse de 1,94%. Cette baisse est principalement due aux économies réalisées et à la diminution du nombre de sinistres. La troisième catégorie de charges, pour 274 000 euros, concerne les autres services extérieurs, à savoir les frais de transport, de télécommunication, de communication et les prestations de profession libérale, par exemple. Elle représente près de 20% du chapitre et diminue de 2,64%. La baisse est essentiellement due à la diminution des frais d'acte et de contentieux. Voilà pour le chapitre 011. Ensuite, on passe au chapitre suivant, qui est le chapitre 012, dépenses de personnel. Ce chapitre représente 61% des dépenses de gestion courante. Alors donc, c'est une masse relativement rigide, hétérogène et complexe, car elle recouvre une diversité de statuts d'agents, ainsi que le coût des enseignants intervenant dans le cadre du PEDT. Dans cette masse, on trouve aussi le coût des chèques déjeuner, ainsi que le coût d'une assurance remboursant à la commune les rémunérations des agents en arrêt de longue durée ou en accident du travail. À noter que dans ce chapitre, le fait marquant est la diminution de 19% du coût des remplacements. Au final, avec une baisse de 0,37%, malgré une hausse de 0,6% du point d'indice au 1er juillet, la principale dépense de fonctionnement a été stabilisée en 2016. Voilà pour les dépenses de personnel. Ensuite, au compte 65, on trouve les autres charges de gestion courante. La baisse de 6,25% s'explique intégralement par la diminution de la subvention d'équilibre que verse la commune au CCAS. Rappelons que cette subvention est une variable d'ajustement calibrée en dernier ressort selon le besoin du CCAS, qui n'est pas connu au moment où nous votons le budget. Pour le reste, de façon habituelle, on va trouver dans ce chapitre les indemnités d'élus, les subventions aux associations, la participation communale au fonctionnement du nouveau CIVU Centre de loisirs et les créances de TLPE admises à non-valeur. Voilà pour le sous-total des dépenses de gestion courante, donc les chapitres que l'on vient de voir, qui représentent quand même 98% des dépenses réelles. Ensuite, on passe au compte 66, où on constate la diminution des intérêts des emprunts, ce qui est logique compte tenu du désendettement qui se poursuit. Puis, au compte 67, charges exceptionnelles, on note une diminution de titres annulés, principalement liée à la TLPE et à la cantine. Au compte 68, on trouve une provision de 60 000 euros, dont la constitution est une mesure de prudence pour faire face à des risques comme les contentieux, les impayés de cantine ou de TLPE, qu'on vient d'évoquer au chapitre 65. On verra plus loin que cette provision est partiellement compensée en recette par une reprise sur provision. Voilà donc pour les dépenses réelles. Pour en terminer avec les dépenses, on trouve au chapitre 042 en opération d'ordre, c'est-à-dire sans flux financier, les amortissements notamment, que l'on retrouvera en recette d'investissement. Voilà donc pour terminer sur les dépenses. On va donc en venir aux recettes avec le tableau suivant, en commençant par le chapitre 013. Alors au chapitre 013, on trouve en atténuation de charges le remboursement par l'assurance des rémunérations des agents en arrêt de longue durée, ainsi que le remboursement des rémunérations des agents en décharge syndicale. Par nature, l'évolution de ce chapitre est aléatoire. En 2016, ce chapitre connaît une baisse atypique de 63%, qui vient après une hausse de 18% en 2015. Plusieurs causes à cette baisse. La première vient du départ à la retraite d'un agent en arrêt de longue durée, dont la rémunération était jusqu'à présent prise en charge par l'assurance. La deuxième vient du fait que les aides liées aux emplois d'avenir ne sont plus imputées dans ce chapitre. La troisième est la diminution des arrêts de travail des titulaires. Compte tenu de ces événements, la structure de ce chapitre a été notablement remaniée en 2016, ce qui par ailleurs explique en partie la baisse du total des recettes de gestion courante. Il y a un problème d'imputation qui a changé, vous l'avez entendu, ce qui veut dire que dans ce cas-là, c'est difficile de faire des comparaisons, toute chose est à égal par ailleurs d'une année à l'autre. Alors au chapitre 70, on trouve le produit des ventes des services en augmentation de 14,88%. Cette augmentation est en grande partie la conséquence de l'actualisation de nos tarifs décidés à la suite du séminaire Finance et qui concerne notamment la cantine et l'accueil de loisirs. Rappelons qu'au dernier trimestre, nous sommes passés de 2 à 4 accueils de loisirs. Au chapitre 73, impôts et taxes, on trouve notamment le produit des impôts locaux, qui n'augmente que de 27 200 euros, la TLPE qui est en baisse de 3%, soit 10 000 euros, les droits de mutation en nette hausse de 28%, avec plus 40 000 euros, l'attribution de compensation versée par l'aglo, toujours figée à 1 261 685 euros, ainsi que la dotation de solidarité communautaire, fixée au même niveau qu'en 2015. Ce chapitre représente près de 84% de nos recettes de gestion courante. C'est dire son importance. Et pourtant, il n'augmente que de 1,87%. Ceci s'explique en grande partie par le fait que l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire versée par l'aglo sont restées au même niveau qu'en 2015. Au chapitre 74, on trouve les dotations et participations en très nette baisse de 19,58%, ce qui représente une baisse de 161 400 euros. Eh bien, 88% de cette baisse est imputable à la baisse de la DGF. Donc, on voit tout de suite le pourquoi de la chose. Au chapitre 75, les autres produits de gestion courante sont marqués par une faible hausse de 0,73% après avoir connu une baisse de 1,8% en 2015. Alors, on trouve ici le remboursement des chèques déjeuner par les agents, le revenu des immeubles tels que le gîte, la poste, l'espace culturel, la salle polyvalente et le local agglo-emploi dont le bail ne sera pas renouvelé en 2017. Ces locations représentent près des trois quarts du montant du chapitre. Voici pour les cinq chapitres qui forment le total des recettes de gestion courante. Ensuite, comme tous les ans, on trouve au chapitre 76 le remboursement par la MARPA des intérêts des emprunts. Ici, la baisse est logique. Au chapitre 77, produits exceptionnels, on trouve des produits aléatoires par nature, comme les remboursements de sinistres, les produits de cession de terrain, comme ceux de la Birade, par exemple, les retenues de garantie sur travaux et les pénalités versées par les entreprises pour retard sur chantier, comme c'est arrivé d'ailleurs pour la salle Chaussard. Au chapitre 78, on trouve une reprise sur provision pour couvrir les impayés de TLPE que nous avions provisionnés en dépenses au chapitre 68. Ce chapitre, là aussi, varie de façon aléatoire au gré des litiges ou des risques. Enfin, on trouve au chapitre 042 les opérations d'ordre constatant des échanges entre les sections de fonctionnement et d'investissement sans entraîner de flux financiers. Elles n'ont pas d'impact sur le patrimoine communal et ce montant correspond à la valorisation des travaux réalisés en régie que l'on retrouvera en dépenses d'investissement. On en terminera avec la section de fonctionnement en évoquant l'épargne nette dégagée en 2016 qui, avec 1 341 803 euros, soit un taux de 19,3%, se maintient à bon niveau malgré la baisse de la DGF. Autrement dit, notre capacité à dégager des ressources pour autofinancer nos investissements reste intacte. Donc la transition est toute faite pour passer à la section d'investissement à partir des troisième et quatrième tableaux. Donc en investissement, chaque année est singulière de par la nature des projets réalisés et dépend en volume de la planification retenue dans le cadre du PPI. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors on commencera par les dépenses en considérant le sous-total des dépenses d'équipement qui regroupe les chapitres 013 à 23 car ils sont en lien direct avec les projets et représentent ensemble 92% des dépenses réelles. Donc on va cerner l'essentiel des investissements à ce niveau-là. Ce sous-total permet d'apprécier l'effort d'investissement dans la colonne mandat émis. Il s'élève à 2 551 862 euros, ce qui est très conséquent pour une commune de notre taille, comme cela avait déjà été dit au moment du débat d'orientation budgétaire. Alors donc, on en vient maintenant au chapitre, en considérant la colonne mandat émis, toujours. Alors au chapitre 20, immobilisation incorporelle, on a un total de 143 625 euros qui se ventile entre les études, les frais d'insertion et les licences informatiques. La hausse globale du chapitre est logique, compte tenu du volume, des opérations réalisées en 2016. Au compte 204, subvention d'équipement versé, figure un montant de 56 942 euros. Alors on trouve là les fonds de concours versés à l'aglo, que nous avons vu d'ailleurs en DM, lors de la dernière DM. On va trouver aussi la subvention versée au SDCE pour l'enfouissement des réseaux, la subvention versée à Habitalis pour les logements sociaux de la Croix-Saint-Pierre. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, là, c'est du lourd, on a des totaux importants. Là, on a un total de 824 758 euros. Et dans ce chapitre sont regroupées les réalisations terminées qu'on regroupe sous le terme achat, qui représente donc 32% des dépenses d'équipement. Alors bon, pour vous donner quelques exemples, pour mémoire, on peut donner quelques exemples significatifs. On va trouver ici les plantations, le remplacement des sols de la mairie, les tableaux des écoles, les TBI des écoles, les cheminements des cimetières, la chaudière de la mairie, la rue Mendès-France, la voirie de Boécité, les installations de voirie, la passerelle sur le Mondeau, les enfouissements de réseau, le mobilier urbain, l'équipement informatique, une auto-laveuse. Enfin, c'est un inventaire à la Prévert. Enfin, vous connaissez certainement ces données puisque vous les avez vues en commission. Au chapitre 23, immobilisation en cours, on trouve un total important, 1 526 547 euros, qui représente 60% des dépenses d'équipement et qui globalise les travaux faits sur les bâtiments ainsi que la voirie. Alors, sur les bâtiments, il y a un montant de 658 450 euros et sur la voirie 868 000 euros. Alors là aussi, pour mémoire, très rapidement, les opérations significatives, ce sera donc à citer la troisième tranche de l'église de Saint-Pierre-de-Gobert, le bâtiment technique sport de Cancel, la salle Chaussard, la buvette du foot, la rue Montalembert, la deuxième tranche de la rue la Carrérotte, la rue de l'école et le parking René Musa. Voilà donc ce qu'on va retrouver comme point significatif dans le montant que je viens de citer. Voilà pour les dépenses d'équipement qui regroupent les chapitres 20 à 23, donc pour un total de 2 551 872 euros. À ce montant s'ajoutent les 895 467 euros de reste à réaliser qui seront reportés en dépenses au budget 2017. On passe ensuite au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, qui constate simplement le remboursement en capital des emprunts en 2016, soit 221 455 euros. Pour en terminer avec les dépenses réelles, on trouve pour 68 000 euros au compte 4 581, opération pour compte de tiers, des dépenses engagées sous convention de mandat avec l'aglo et AGEM. On retrouvera les remboursements en recettes. Pour finir avec les dépenses d'investissement, en opération d'ordre, où on trouve au 0,40 les travaux en régie que nous avions vus en recette de fonctionnement. Et au 0,41, opération patrimoniale, l'intégration dans le patrimoine communal des études des projets terminés. On retrouvera ce montant en recette, ce qui au final est neutre. On peut donc passer aux recettes d'investissement. Alors les principaux postes de recettes sont les subventions pour 301 555 euros. Le FCTVA et la taxe locale d'équipement pour 366 800 euros et bien sûr l'affectation du résultat 2015 pour un montant de 1 270 000 euros dont on a précédemment parlé. Alors maintenant dans le détail, au chapitre 13, subvention d'investissement, on trouve pour 173 900 euros le FST pour des opérations qui entraient bien sûr dans la thématique. À ce FST s'ajoutent d'autres subventions, telles que celle du SDCE pour l'enfouissement des réseaux, celle du district pour la buvette du foot, celle de l'État pour la salle Chaussard et le bâtiment sport. Ensuite, au chapitre 10, fonds divers et réserves, on trouve la taxe d'aménagement et le FCTVA, c'est-à-dire le remboursement par l'État de la TVA que la commune a supportée sur ses investissements. Au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, on trouve l'affectation de l'excédent de fonctionnement dégagé en 2015, permettant de combler le déficit de la section d'investissement constaté au CA 2015. Au chapitre 27, immobilisation financière, comme tous les ans, il s'agit du remboursement par la MARPA du capital de son emprunt. Au compte 4582, opération pour compte de tiers, on trouve pour 93 600 euros le remboursement par l'AGLO des opérations réalisées sur Boé sous convention de mandat. Rue Mendès France, rue de Montalembert, enfouissage d'éclairage public, etc. Et pour finir à l'opération d'ordre, au 040, on trouve les transferts, les échanges entre sections, notamment les amortissements déjà évoqués en dépenses de fonctionnement tout à l'heure. Pour en terminer avec la présentation du compte administratif, on trouve au 041 l'intégration des études au patrimoine déjà vue en opération d'ordre en dépenses d'investissement pour le même montant. Alors, en vertu des considérants et références juridiques détaillées dans la délibération, je vous propose, chers collègues, de bien vouloir adopter, hors la présence de M. le maire, le compte administratif tel qu'il vient d'être présenté.
Merci. C'est ce qui s'appelle se faire virer. Je vais me retirer, bien entendu. Mais auparavant, on va donner la parole aux collègues et pour d'éventuelles observations. En tout cas, merci, Monsieur l'adjoint aux finances, pour cette présentation très complète et très détaillée qui permet, je crois, de comprendre les variations d'un compte administratif à l'autre, de voir un petit peu ce qu'il contient comme indication sur la situation budgétaire de la commune, qui est solide, je crois pouvoir le dire, mais vous voyez bien que on maîtrise et on contrôle les dépenses de fonctionnement en particulier, mais pour autant, vous voyez que les recettes sont également orientées à la baisse du fait principalement de la baisse de DGF, tout ça. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas de contrôler les dépenses et qu'il faudra continuer, bien entendu, mais que les recettes n'étant pas à la hausse, il faut être très, très vigilant. Ceci étant, je pense que le résultat est correct et qu'il permet de conserver à la commune sa capacité d'intervention et sa capacité d'investissement. Non seulement d'investissement, on parle beaucoup d'investissement et je crois qu'on a raison, il faut en effet pouvoir entretenir, améliorer, valoriser le cadre de vie des Boétiens à travers les investissements qu'on réalise, mais il y a aussi le fonctionnement. Le fonctionnement n'est pas seulement une variable destinée à être toujours plus maîtrisée, compressée, etc. Le fonctionnement, c'est aussi des dépenses de services publics qui sont orientées vers la satisfaction des besoins de nos administrés, quoi. Je crois qu'il faut aussi le dire. Voilà, vous avez la parole, chers collègues. Madame Bonfanti.
Oui, donc nous, l'opposition, on voulait vous féliciter sur la maîtrise quand même des dépenses, puisqu'effectivement, les dépenses sur le budget de fonctionnement 2016 sont maîtrisées et sont en baisse même par rapport à 2015, donc c'est une très bonne chose et on s'en félicite. De même qu'on se félicite de réaliser sur les investissements qui ont été particulièrement importants cette année.
Merci, Madame Bonfanti. Nous prenons cette appréciation comme, non pas comme un compliment, mais comme voilà une analyse qui converge avec la nôtre. Et voilà, alors donc c'est effectivement, je crois qu'on peut le dire, un exercice 2016 qui est satisfaisant. Ça veut dire qu'il faut continuer, qu'il faut en 2017 avoir les mêmes objectifs de maîtrise. Alors vous le voyez bien, hein, des dépenses à caractère général, ça a baissé. Il faut qu'on poursuive, et en étant très volontariste, et vous savez que nous essayons de l'être, ça n'est pas facile, en particulier en termes de maîtrise de nos dépenses de fluide, par exemple. On est tous témoins parfois de gaspillage, parce que quand on est dans une collectivité, on a parfois tendance à considérer les uns ou les autres que dès lors qu'on ne paye pas directement, on n'est pas aussi vigilant qu'on le serait peut-être chez soi. Donc il faut non seulement faire de la pédagogie et contrôler la bonne observation des règles élémentaires d'économie quand on utilise les installations publiques de la ville, mais il faut aller au-delà, ça ne suffit pas. Et donc il faut faire des investissements qui vont dans ce sens. Et je me tourne vers notre adjoint au patrimoine et aux travaux. Il y a des choses qui s'engagent, notamment sur la salle de quartier de Saint-Pierre-de-Gobert qui sera un test un petit peu. Je vais lui donner la parole juste sur ça pour dire vers quoi il faut s'orienter. Ça supposera quelques investissements qui ne me paraissent pas hors de portée de la commune, mais c'est potentiellement porteur d'économie à terme. Tu veux nous donner quelques explications là-dessus ?
Oui, on l'a déjà évoqué à cette tribune. Il s'agit de faire du pilotage d'énergie, finalement, depuis un poste maîtrisé en fonction de l'allocation des salles, et ce par un système de robotique qui va nous permettre, donc, avec des horloges, mais de déclencher le chauffage ou de l'arrêter en fonction des besoins, surtout de la location de la salle, sur des plages horaires bien définies, comme on peut les avoir dans les programmations de location de salle, notamment, ou de prêt de salle aux associations.
Voilà, donc il faut poursuivre dans cette direction. On aura des rencontres avec les associations aussi pour mettre l'accent, pas seulement bien sûr, mais c'est pas le seul sujet qu'on va aborder, mais là aussi, quoi, que chacun se responsabilise dans l'utilisation des installations de la ville. Bref, il faut aller dans cette direction. Quant au chapitre 012 du personnel, qui est légèrement à la baisse cette année, ça résulte de départ à la retraite, non complètement compensé. C'est aussi le fait que quand vous avez des agents qui sont en fin de carrière et qui partent et qui sont remplacés par de plus jeunes, il y a une dépense salariale qui est plus faible. Bon, tout ça, ça va, ça vient. Il faut se garder de tout dogmatisme là-dessus. Hein. Il ne suffit pas de dire on ne va pas remplacer un sur deux, machin, etc. On a encore une fois à assurer un service public. Il faut le faire dans des conditions aussi raisonnables que possible. Et puis, vous avez... Pardon, sans donner de nom, mais je vais vous prendre l'exemple aujourd'hui d'une situation où nous avons un agent de la ville qui, à la suite d'accidents de service, se trouve dans une situation. Il était dans le service technique et puis il va réintégrer les services de la ville après un congé assez long, mais avec l'impossibilité pour lui, dûment constatée médicalement, quoi, de ne plus pouvoir assumer l'exercice physique de ses fonctions. Donc il va falloir trouver des fonctions qu'il puisse exercer sans pénibilité particulière, etc. Donc ça veut dire qu'il faut trouver ça, qu'il faudra sans doute le remplacer dans les tâches qu'il accomplissait jusqu'à présent. Et tout ça, on a l'obligation de le gérer, bien entendu, et on va le faire. Hein. Mais ça, quand vous avez des choses comme ça qui arrivent, ça rentre aussi dans les plus et les moins de la gestion financière de la dépense salariale. Bon, ça, c'est humain, hein, ça fait partie des choses, mais il faut le gérer aussi, quoi. Voilà, bon, bref, on va continuer dans cette direction. Je vous donne de nouveau la parole, hein, chers collègues, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Bien, écoutez, je vais me retirer et donner la parole à la première adjointe pour faire voter ce...
Donc, je vous propose, donc, chers collègues, de bien vouloir adopter le compte administratif 2016 tel qu'il a été présenté. Donc, je mets ce rapport au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité.